Bonjour à toutes et à tous, Punsun à toutos et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Albigès dans votre magazine Garde Arem la Terre. Et cette semaine, nous vous proposons un petit flashback puisque nous allons revenir le 18 avril dernier. C'était la 6e journée de la biodiversité sur le campus de Fond-Labour. Et alors, Radio Albigès était sur place, nous avions un petit plateau radio. Et à notre micro se sont enchaînés plusieurs intervenants et intervenantes qui nous ont parlé de leur travail, pour la plupart, vous en doutez, engagés en faveur de la biodiversité. Et sur Radio Albigès, nous vous proposons tout de suite de revenir sur cette 6e journée. Écoutons un petit peu tout ce qui s'est passé, toutes les choses intéressantes qui se sont racontées. Garde Arem la Terre, c'est parti.
Alors, on est toujours sur, comment savoir, de soleil de midi presque, sur la, à Albi, 6e journée de la biodiversité. Sur le campus Fond-Labour, et on cueille Jérémy Souchet au sortir de sa conférence intitulée « Et bocage et biodiversité ». Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Tu représentes Ad Naturam et le CNRS de l'Ariège, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que tu y fais au CNRS avant de parler de
Alors, moi je travaille donc au CNRS, à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS qui se trouve à Moulis en Ariège. Donc pour l'instant, je suis doctorant en écologie. Mmh. Donc là je suis sur ma dernière année de doctorat et je travaille principalement sur l'herpétologie, donc ce sont les reptiles.
Herpétologie
exactement, d'accord. Donc ça englobe tous les reptiles et tous les amphibiens. Moi ma spécialité c'est surtout les serpents.
Ouais.
Pendant ma thèse en fait j'essaye de comprendre comment le manque d'oxygène en altitude va influencer tout ce qui est développement embryonnaire et performance des jeunes à la naissance chez une espèce de serpent qui s'appelle la couleuvre vipérine.
Couleuvre vipérine.
Exactement.
Donc c'est vipère, couleuvre, c'est un peu...
Alors c'est une couleuvre,
d'accord.
Mais c'est une couleuvre qui mime en fait la vipère. Elle a les zigzags dorsaux comme la vipère, elle a un sifflement qui imite la vipère. Et en fait c'est ce qu'on appelle un mimétisme batésien, c'est-à-dire que ça mime des signaux qui sont caractéristiques d'espèces dangereuses, donc venimeuses. Et ces signaux vont permettre en fait de prévenir les prédateurs du danger de l'animal. Donc en fait la vipère va prévenir par exemple les rapaces en leur disant écoute, si j'ai un zigzag c'est pas pour rien, viens essayer de me manger et moi je vais pouvoir me défendre. Mmh. Et la couleuvre vipérine en fait a un peu futé, a décidé de mimer ce comportement et ses motifs pour pouvoir en fait se protéger des prédateurs.
Donc ça, c'est ton sujet que tu travailles au CNRS. Ad Naturam, c'est quoi ? C'est une association à côté qui a...
C'est une association qui a rien à voir avec le CNRS, même si on est beaucoup à travailler au CNRS.
Ouais.
C'est parti d'une bande de copains qui s'est rendu compte que l'écologie scientifique, c'était absolument pas vulgarisé, que ouais. Les gens ne savaient pas ce que c'était, donc tout ce qui est faune, flore et l'interaction des deux. Donc on s'est lancé il y a 2 ans dans l'association, on a monté ça, et donc à travers à la fois des conférences, des articles de synthèse, des planches illustrées et plein de petits programmes comme ça, mmh. On parle de science, on parle d'écologie, mais toujours de manière scientifique, sourcée, et pas de on dit ou ce genre de choses, quoi. On va vraiment se focaliser sur un sujet, le développer, l'expliquer et montrer comment... Une question peut en amener déjà beaucoup plus, et comment tout ça se lit, comment tout ça se comprend, afin de mieux comprendre en fait finalement tout ce qui nous entoure.
Et donc le lien entre le CNRS et Naturam, parce que CNRS par exemple, les publications, où est-ce qu'on les trouve et est-ce qu'elles sont accessibles justement ?
Voilà, alors le problème de la recherche, c'est que les publications sont toutes en anglais. Déjà.
Ouais, déjà.
Donc ça peut limiter énormément, c'est très lourd à lire parce qu'on va développer à la fois, donc la partie introduction est intéressante, on développe des concepts. Et après, il y a tout ce qui est matériel et méthode dans l'article scientifique où là, on dit, voilà, j'ai pris tant d'animaux, j'ai mesuré telle chose avec tel instrument. Donc, c'est très lourd à lire. Après, il y a les résultats statistiques.
En fait, on écrit pour ses pairs. On écrit
voilà,
pour
exactement.
Les autres,
on écrit pour les pairs.
Chercheurs.
Voilà, avec les conclusions qui vont avec. Il faut avoir un gros bagage scientifique pour pouvoir, en général, lire la publication scientifique.
Ouais.
Et donc, difficilement accessible parce qu'elle est en anglais, parce qu'elle est très axée science et très technique. Et en plus, c'est pas toujours évident de les trouver. Donc, il y a des moteurs de recherche comme Google Scholar qui permettent d'avoir accès à tous ces trucs-là. Sauf que c'est souvent payant. Nous, avec le CNRS, on a justement avec les éditeurs, on a des partenariats. Donc, on a accès à beaucoup de publications.
Ce qu'on rappelle, le CNRS, c'est public.
Le CNRS, c'est public, ouais. Donc, c'est un autre débat. Mais dans la recherche, il y a des gros problèmes entre, on fait de la recherche publique avec l'argent public et en fait, on vend finalement nos travaux à des maisons d'édition qui le privatisent derrière.
Ouais.
C'est un cercle qu'on a du mal à à sortir, parce que c'est ça aussi qui fait notre réputation, c'est les publications, le nombre de fois on est cité dans d'autres publications. Donc c'est ça qu'on va regarder pour obtenir des concours, etc., etc., ou des financements. Donc c'est très compliqué parce que bon, on est justement à cheval entre ces deux trucs, mais il n'y a pas forcément de communication pour le grand public, et c'est ce qui manque, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Donc on a décidé d'ouvrir la porte des sciences en fait aux gens à travers l'association, l'écologie parce que c'est méconnu, et de plus de permettre aux gens de comprendre un peu mieux tout ce qui les entoure et comment la science permet de comprendre tout ça, quoi.
Donc ça c'est la partie ad naturam.
Tout à fait.
On l'a dit, des conférences, est-ce que ça va jusqu'à la conférence gesticulée ou
Conférence gesticulée, c'est-à-dire?
Ah, tu connais pas. Alors non. Ça mélange du savoir chaud et du savoir froid, c'est-à-dire que par exemple tu pourrais raconter comment toi tu es venu à l'écologie.
D'accord.
En tant que personne, et tu pourrais mélanger ça avec de la théorie que tu as dans les livres.
Alors effectivement, bon, c'est pourquoi pas. Bah, c'est un petit peu ce qu'on fait je connaissais pas le terme, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on parle de plein de choses, on donne plein d'exemples, et c'est souvent des exemples qui sont personnels, donc c'est un mélange à la fois de... Bah, à travers Ad Naturam, en fait, on a le parcours de chaque membre de l'association qui passe avec... On a tous... Moi, ça va être les reptiles, d'autres les insectes, on va avoir nos petites préférences, du coup, on va axer la conférence plus... Enfin, on va donner des exemples qui sont plus axés sur nos thématiques, nos préférences, parce que c'est là aussi on est à l'aise aussi pour parler, discuter avec les gens, quoi. Donc oui, un petit peu de ça, effectivement.
Et du coup, toi, justement, ta première rencontre avec le monde
herpétologique, ouais. Le monde herpétologique, donc le monde des reptiles, moi j'ai découvert sur le tard, j'ai découvert il y a 21 ans, donc j'avais donc passé mon baccalauréat, j'avais enchaîné sur une licence de biologie générale, parce que la nature j'aimais bien, mais j'y connaissais rien et je savais pas.
Est-ce que tu avais peur des serpents comme tout le monde?
J'avais peur, j'étais plus fasciné que j'en avais peur, mais je les craignais comme tout le monde parce qu'on m'a appris à les craindre assez bêtement.
Ouais, et très mauvaise presse en fait.
Très très mauvaise.
Depuis très longtemps.
Depuis le Moyen Âge, ça a commencé vraiment à avoir mauvaise presse avec la religion catholique et le Moyen Âge qui a fait de toute façon de mal aux serpents, aux corbeaux. Ouais. Il y a beaucoup d'espèces qui ont été mises à mal durant le Moyen Âge. Et c'est très très dur d'enlever ces craintes. Et donc moi j'ai eu l'occasion en fait pendant un stage de licence, troisième année de licence, à ce moment-là j'avais décidé que j'allais être enseignant en biologie, en SVT dans le secondaire. Je connaissais pas la recherche, je connaissais pas les serpents, et j'ai eu l'occasion de faire une semaine de stage dans un labo de recherche avec ma fac. Et il y avait une personne qui travaillait sur les serpents qui est venue nous voir, et puis il a amené un serpent, et j'ai touché le serpent, et je sais pas, un petit déclic quoi.
Ouais.
Et j'ai dit ok, maintenant c'est ça que je veux faire, c'est je veux bosser avec ces animaux, pour ces animaux. Et donc après j'ai enchaîné à des masters de biologie, écologie, évolution, donc, et j'ai continué à faire des stages en herpétologie pour me familiariser et puis commencer à vraiment maîtriser le sujet. Et depuis, eh ben, je continue. Maintenant, je fais ma thèse en écologie sur des serpents. Donc, ça a été une opportunité qui a ouvert une grande, grande porte qui ne s'est jamais refermée et puis qui continue de s'ouvrir avec la vulgarisation, etc., etc.
Alors, on parle de reptiles, c'est plus large que le serpent. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut citer comme nom connu, hein, pas les noms scientifiques,
hein, même, en fait, reptile, c'est un terme qui est, on va dire, révolu. Il est assez usuel, mais il est faux. On parle soit de reptiles aviens ou non aviens maintenant, c'est-à-dire que les oiseaux et les reptiles d'avant,
ouais,
ont été associés en une seule et même grande famille.
C'est ce qui est, qui s'appelle c'est les sauropodes. C'est ce qu'on apprend dans Jurassic Park, non?
Exactement, c'est, ouais, c'est ce qu'on appelle les sauropodes, c'est tout ce groupe-là. Et dedans se distinguent d'abord les tortues, qui sont toutes seules. Ensuite se distinguent les squamates. Et dans ces squamates, on va voir tout ce qui est lézard, serpent. Globalement, tous les lézards, les iguanes, les agames, les caméléons, toute cette diversité-là. Et donc tous les serpents, boa, python, couleuvre, anaconda. Tout ça va être une grande famille. Et ensuite, dans le terme usuel de reptiles, il y a aussi les crocodiles. Mais finalement, en fait, les crocodiles, ils sont beaucoup plus proches des oiseaux qu'ils sont des tortues ou des serpents. Et donc, on a à un moment donné une bifurcation génétique. On a les crocodiliens d'un côté et ce qu'on appelle les dinosomorphas d'un autre. Et dans les dinosomorphas, nous avons donc tous les dinosaures disparus et les oiseaux. Donc, en fait, on a souvent pensé que les reptiles étaient descendants des dinosaures, mais en fait, c'est les oiseaux qui sont leurs descendants. Et le plus proche parent, c'est le crocodile. Et après, tout le reste est assez loin, finalement, dans l'arbre phylogénétique de la vie, quoi.
D'accord. Ça se passe sur des travaux là, je pense à Darwin, mais peut-être c'est plus compliqué.
C'est beaucoup basé sur des travaux en génétique, en fait.
Ouais.
Et ça évolue encore. Hein. On fait des nouvelles découvertes qui affinent toujours ces choses-là. Mais c'est globalement c'est basé sur la génétique. On fait des tests, des liens de parenté, etc. Des mutations génétiques ont apparu dans des endroits et on peut comme ça. Moi, je maîtrise pas du tout le sujet, donc je vais parler assez globalement. Mm-hmm. Et ça permet de mettre en fait des liens comme ça entre tout et des vitesses de séparation des espèces, des familles, etc.
Donc je rappelle qu'on est avec Jérémy Souchet de Ad Naturam et chercheur au CNRS à Ariège sur la journée de la biodiversité 6e du nom à Font-Labour à Albi. Et tu as intitulé ta conférence « Ébocage et biodiversité ».
Oui.
Du coup, ce n'est pas forcément les serpents dont tu as parlé.
Non, mais j'en ai profité pour parler un petit peu des serpents, ouais. Forcément.
C'est le marqueur de quoi d'ailleurs si on a un serpent dans son jardin ou si on n'en a pas justement, qu'est-ce que ça veut dire ou ça ne veut pas dire.
Ça veut tout et rien dire, parce qu'il peut être juste de passage.
Ouais.
Donc il peut vraiment passer ici de manière complètement aléatoire, parce qu'il est à la recherche d'une femelle pour le mâle, par exemple, ou la femelle qui va chercher un site de ponte ou un site de mise bas. Par contre, si on en voit de manière régulière, c'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire qu'il y a à proximité des habitats qui sont favorables à l'espèce qu'on peut observer.
Des proies
et surtout des sites d'hibernation et des sites de ponte, parce que les serpents pendant l'hiver vont chercher à des sites de ponte, d'hibernation pardon, pour lutter contre le froid. Mmh. Donc ils vont courant octobre-novembre en fonction des régions de France aller hiberner et ressortir en février, mars ou avril, pareil, en fonction de la saison, des températures, etc. Ils vont ressortir. Et donc, si ça peut arriver, effectivement, par exemple, que des sous-sols de maisons soient favorables, que des tas de pierres, des tas de branches soient favorables à l'hibernation, donc on va trouver des serpents qui vont chercher ces lieux-là, quoi.
Et alors, si on reprend dans l'intitulé « Ébocage et biodiversité », sur les haies, les bocages, est-ce que, justement, c'est quand on replante des haies, par exemple, dans un champ, quand on reparcelle des petites parcelles, est-ce que ça favorise le retour de serpents, le retour de biodiversité, quoi.
Ça favorise le retour de toute la biodiversité et surtout ça favorise la reconnexion en fait entre des populations. C'est-à-dire que vous avez toute une zone qui est assez bonne où il y a plein d'animaux. L'autre, pareil, il y a les mêmes animaux, mais c'est une autre population. Ils ne peuvent pas se croiser parce qu'ils n'ont pas de route qui les connecte finalement. Ouais. Et ça peut entraîner pas mal de problèmes génétiques parce qu'on a un isolement de ces populations et à terme ça peut les faire disparaître. Donc les haies, au-delà de favoriser un nouvel habitat, ça va être aussi favoriser des connexions entre tout ça et favoriser aussi l'arrivée de nouvelles proies, donc permettre aux populations de grandir, de grossir, etc. etc. Donc le serpent n'arrivera pas le premier parce que c'est un super prédateur dans la chaîne alimentaire, il est assez haut. Donc ça va d'abord être des insectes, enfin des plantes, des insectes, puis des petits rongeurs, et puis après progressivement on va comme ça arriver à des espèces qui sont un peu plus, disons un peu plus grosses, mm-hmm. et jusqu'à temps d'arriver jusqu'à des espèces assez emblématiques de ces milieux-là, que vont être certains oiseaux, comme la tourterelle des bois par exemple, qui est très, très axée sur les linéaires comme ça, bocagés.
Et du coup, est-ce que toi par exemple, est-ce que tu fais que de la théorie ou est-ce que tu participes par exemple à des projets de replantation de haies avec réinstallation d'espèces artificiellement, c'est-à-dire qu'on les remet là en espérant qu'elles se... ou est-ce que tu as entendu parler de travaux comme ça ou...
Alors il y a des travaux de réintroduction, sur les serpents il n'y en a pas, sur les amphibiens non plus, en herpétologie il n'y en a pas en tout cas, parce qu'on a encore des populations sauvages, même si elles sont en régression, qui sont dans certaines zones assez bien maintenues.
Ouais.
Donc oui, il y a des programmes de reconnectivité des réseaux comme ça, donc ce qu'on a appelé les trames vertes et bleues pendant un temps. Moi je m'en occupe pas, après des fois je peux être appelé en tant qu'expert herpéto, ouais. Pour venir donner des conseils sur comment créer des abris pour ces animaux là, etc., etc. Mais je vais pas du tout faire tous les plans de gestion, moi je vais vraiment faire de la recherche expérimentale où je vais produire de la connaissance, fournir de la connaissance, et après c'est d'autres organismes qui sont des organismes de gestion qui eux vont en partenariat avec les mairies, des associations, d'autres associations de gestion, des chercheurs, de monter des projets globaux, et donc chacun fait sa part en fait de manière un peu différente, mais on essaie de travailler en commun.
Et est-ce que les herpétologues sont en voie de disparition, en voie de croissance ?
Non, les herpétologues, ils sont de plus en plus nombreux. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, il y a encore 15 ans, on ne parlait pas trop des serpents. Les conférences sur les serpents, les émissions sur les serpents, ça n'existait pas trop. Ou quand ça existait, c'était assez néfaste.
C'est Fort Boyard, quoi.
Voilà, c'était Fort Boyard. Donc, à part mettre de la crainte en plus, ça ne servait à rien. mais avec toutes les actions qui sont menées par moi et par plein d'autres collègues à travers le pays, on a de plus en plus d'associations qui se dédient, au même titre que la LPO se dédie aux oiseaux, qui se dédient exclusivement aux reptiles et aux amphibiens. Et donc il y a quand même une communauté qui est grandissante. On n'est pas des dizaines et des dizaines de milliers encore, mais on grossit, on s'étale un peu sur le territoire et on a des discours qui sont de plus en plus communs, ce qui fait qu'on a une vraie progression. Et je pense que de manière générale, le public perçoit de mieux en mieux les serpents. C'est le ressenti que j'en ai à force de discuter avec les gens. Il y a une forme d'acceptation de l'animal et du coup les gens veulent savoir du coup comment il fonctionne et donc ils viennent de plus en plus à ce genre de conférences, etc.
On parle de l'animal dans son milieu naturel, pas forcément parce qu'on sait qu'il y a des animaleries qui vendent des serpents. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de serpent à la maison?
Alors, c'est un débat qui est toujours un peu compliqué. Moi, je suis pas pour. Bon, j'en ai eu un pendant un temps. En fait, il y a plein de choses à voir. Il y a les animaux qu'on vend en animalerie, c'est pas les animaux qu'on trouve en local de toute façon sur le pays. C'est des animaux qui viennent
exotiques,
exotiques, donc beaucoup d'Amérique du Nord ou d'Afrique. C'est des animaux qui sont. En fait, il faut vraiment considérer que le serpent. Enfin, je vais prendre vraiment le cas du serpent là, mais oui. De son propriétaire, il s'en fiche complètement. Il n'y a pas de sensibilité, d'attachement finalement au propriétaire. Ce qui fait qu'il peut passer 2 semaines dans sa cachette sans qu'on le voit. Donc ça ressemble.
On siffle pas pour l'appeler, quoi.
Voilà, globalement c'est une plante verte. Ouais. Donc après, je comprends qu'il y a des gens qui soient passionnés. Moi, je préfère les voir directement dans leur milieu naturel exercer tout leur comportement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. En plus, il y a plus de choses à voir, que ce soit d'un point de vue de. Parce qu'on restera jamais focalisé sur le serpent. Il y a aussi la plante qui va avec. Comprendre comment il va réguler sa température, comment il va se placer, quel milieu il va choisir, ça permet vraiment d'avoir un contact plus intime finalement avec l'animal. Et après, je conçois l'intérêt d'avoir un animal en captivité, parce qu'on a encore besoin d'animaux dits pédagogiques finalement, pour que les gens puissent manipuler cet animal, comprendre ce que c'est un serpent. Et ça, parce que le fait de toucher un serpent, enlève, dans 90% des cas, enlève la peur du serpent, ou du moins la crainte phobique. Les gens vont pas aller les ramasser, mais au moins ils ont l'occasion de toucher quelque chose qu'ils n'auront jamais vu dans leur vie. Donc ça permet une première approche, après ça ne doit pas être une finalité, quoi.
Ouais. Ben, Jérémy Souchet, on te remercie. On rappelle donc que tu es chercheur au CNRS en Ariège et tu fais partie de l'association Ad Naturam. Où est-ce qu'on peut retrouver Ad Naturam dans l'info, des conférences
Un peu partout. On a un site internet qui s'appelle adnaturam.org. De ce site-là, on peut rebasculer sur la chaîne YouTube où toutes les conférences qu'on a déjà faites sont consultables. On peut basculer sur les réseaux sociaux où on balance régulièrement des photos, des anecdotes, des nouveaux articles et aussi toutes les dates d'événements sur lesquels on va participer dans l'année à venir.
Ok. Ad Naturam, c'est en deux mots, Ad Naturam, comme ça se prononce.
Exactement.
Merci Jérémy.
Merci beaucoup.
Vous êtes bien sur Radio Albigès dans votre magazine Gardarem La Terre, cette semaine consacrée à la 6e journée de la biodiversité qui a eu lieu le 18 avril 2019 sur le campus Fontlabour à Albi.
La zone en personne.
C'est moi le micro bleu.
Ok, qui c'est qui veut aller au micro vert? Bon, on va commencer avec toi. Si tu dis des bêtises, ils vont combler. Alors, on est toujours sur. Comment tu l'appelles cette journée?
La biodiversité.
Ouais. C'est la combienième?
6e.
Ok, t'as bien révisé.
Oui.
Qu'est-ce que tu as fait toi sur cette journée? Comment tu t'appelles d'abord?
David Bérez. Et en gros, nous on devait gérer l'auditorium. Du coup,
pris feu, ça va?
Non. On a bien ouais, géré ouais. Ça. Du coup, on a eu un sujet. On a fait en sorte que le sujet soit bien. Et du coup, après, on avait des responsabilités de prendre. Il y avait des personnes qui étaient là à prendre les gens, à les mettre en place pour les conférences.
Gérer les inscriptions aussi,
c'est ça? Oui, gérer les inscriptions, les budgets. Et nous, avec Léo, on n'était pas là, on était en bas à d'autres conférences.
En bas, dans un autre bâtiment.
Il y avait trois
lieux de conférences à gérer, c'est ça, je crois?
Oui, il y avait le CD aussi, oui, trois.
Qui c'est Léo, tu dis Léo?
C'est Léo Morut, il est là.
Il veut pas parler? T'as un micro vert si tu veux.
Allez, viens Léo.
Allez, allez-y. Ah, voilà, on l'apporte jusqu'ici parce qu'il est même plus sur ses jambes, il est trop crevé.
Ouais, il a beaucoup bossé, il est fatigué.
Vous êtes levé à quelle heure ce matin
pour faire Moi, c'était 6h.
Ouais.
Moi, ouais, 7h.
Je suis interne,
c'est pour ça.
D'accord, ok. Bon, tu corrobores tout ce qu'a dit ton collègue, c'est vrai, tout ce qu'il a dit?
Bah ouais.
Qu'est-ce que tu aurais à rajouter sur ce que sur
on a aménagé la scène de l'auditorium.
Ouais, avec la belle déco.
Ouais, qui était sur le thème des fonds marins. On a fait un côté avant et après. Avant, bien coloré, avec pas mal de couleurs, et de l'autre côté, fané, blanc, que du sable.
Ouais.
Avec beaucoup de pierres apparentes.
Des déchets.
Et pas mal de déchets, ouais.
Ok. Et peut-être une info sur c'est quoi les formations que vous faites ici à Fond-Labour
Nous, on est en bac pro aménagement paysager.
Ok.
En apprentissage.
Ouais, en apprentissage, et on est tous dans la même classe.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette formation
C'est génial, ouais. C'est
vous inquiétez super. Pas, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez.
Vous pouvez vanner avec 2-3 profs, non ça...
Comment
vanner 2-3 profs, non pas de...
Attends. Bah, Clément Marty,
Il est là, il entend.
Big up à Clément Marty.
Quel métier vous envisagez là pour après cette formation? Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous imaginez faire?
Rester dans ce domaine-là pour l'instant. Enfin, continuer, avancer.
Ouais. Et pour moi, conception 3D sur ordinateur des jardins.
D'accord.
Ouais.
Et est-ce que cette journée de la biodiversité, ça vous a apporté un regard un peu différent de ce que vous aviez jusqu'à présent, ou ouvert peut-être des portes vers de la réflexion sur d'autres sujets?
Perso, moi non. C'est juste que genre c'était bien de mettre en scène là ce qu'on a réalisé. Après non, c'est pas
ça. Vous toute l'année vous en parlez de la biodiversité?
On est beaucoup sensibilisés, du coup on a l'habitude d'entendre ce qu'ils disent aujourd'hui.
Ouais, je m'en doute. Vous êtes allé faire un tour des stands quand même?
C'est oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
On a pris des contacts, oui.
Du coup, est-ce que vous estimez que vous êtes la première génération à entendre parler de ça, ou est-ce que vous estimez que les anciens ils savaient ça?
Non, on est la première
à ça. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de poids sur vos épaules. Il va falloir le gérer, la planète. Hein,
oui.
Comment? Vas-y,
reprends tes micros. C'est un sujet actuel.
Ouais. Donc du coup, par exemple, qu'est-ce qu'on a loupé là depuis quelques années, à votre avis? Où est-ce qu'on a merdé un peu au niveau de la biodiversité?
Ben, on pense pas à la nature, on pense qu'au rendement et à l'argent.
Ouais.
Et on s'aperçoit qu'en fait ça sert à rien, enfin, qu'on est en train de s'auto-détruire et qu'on se tue nous-mêmes. Mmh. Alors qu'il y aurait d'autres solutions et qui au final on arriverait au même résultat tout en faisant attention.
En étant un peu plus avec des...
En réfléchissant et en étant moins brut. Enfin...
Ouais. Ok, tout le monde est d'accord avec ça?
Et en se cultivant aussi, peut-être de la tête, aussi. Hein.
Ouais. En cultivant et en se cultivant.
En se sensibilisant. Ouais.
Sensibilisant, ouais.
Bah c'est cool, ça fait plaisir d'entendre ça en tout cas.
Ouais,
est-ce que vous sentez une sorte de responsabilité un peu par rapport à ça, de continuer à garder tout ce que tu viens de dire, là, de continuer à le garder en tête et de se fixer un peu comme une sorte de règle de vie, quoi, et de professionnel aussi, puisque c'est votre futur, quoi.
Je pense que, comme on nous l'a appris, les gens qui n'ont pas été sensibilisés, ils peuvent pas comprendre. Et parce que moi, au départ, non plus, je comprenais pas. Mais après, une fois sensibilisé, on comprend. Je sais pas comment dire.
Mais... On nous met dans le sujet, quoi.
Vous êtes avec,
directement. Ouais. Non, on n'est pas né directement. Fait, mais par exemple, quand on vient dans ce domaine-là, après, les formateurs, même en entreprise et tout ça, on est directement après dedans. Hum.
Du coup, vous avez à gérer la biodiversité sur... vous avez des travaux pratiques, je veux dire, ici.
Ouais.
Ça consiste à quoi, à gérer la biodiversité ici, oui, sur le campus?
Des cours aussi.
Des cours aussi, mais là, concrètement, il y a de l'eau à gérer, il y a des arbres, il y a des insectes...
Des espaces.
Des espaces.
Ouais, des espaces.
Vous gérez un peu les... on a des déménagements derrière. Vous gérez des essences d'arbres, vous choisissez en fonction du milieu, tout ça. Comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez justement avec sur le parc là?
En gros, là, on fait que les chantiers d'entretien. Il n'y a pas beaucoup de créations qu'on a fait. On a fait zéro de création, je crois, ici.
Ouais.
Pas en création arbre, enfin, après on a fait de l'aménagement, mais après ouais, on fait que de l'entretien ici. C'est beaucoup en entreprise où on développe plus le milieu de la biodiversité.
Ouais. Quelqu'un veut témoigner en plus? Non, c'est bon, les copains.
Il y a des timides, je pense.
Bah super, mais merci beaucoup à vous en tout cas. Et bon, puis,
avec plaisir. Merci. Bah, peut-être à l'année prochaine, vous serez encore là l'année prochaine. Dans l'équipe organisatrice.
Sûrement.
Ouais.
Peut-être. Ah ouais, ben non, ce sera la première. Non, on sera pas là, je pense. Je pense que nous, ben, à ce moment-là, on sera en entreprise.
D'accord. Ah, vous n'avez pas demandé un jour de congé pour revenir aider les copains ?
Ouh, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué.
On a tous les mêmes patrons.
Ah oui, d'accord. Ok. Bon, on leur lance, on sait jamais, on leur lance quand même la
peine. Soyez indulgents, les
patrons. Soyez indulgents pour l'année 2020, laisser une journée de repos pour qu'ils aillent travailler ailleurs gratuitement.
C'est ça.
Merci beaucoup à vous, en tout cas.
Plaisir, merci.
Et puis, bonne fin de journée.
Merci donc, à vous.
Ici, sur le campus de Fond-Labour, 6e journée de la biodiversité. Merci.
Avec plaisir. Au revoir.
On est toujours sur ce plateau extérieur de la 6e journée de la biodiversité sur le campus Fond-Labour à Albi. On arrive, on s'achemine tout doucement vers la fin de la journée. On est toujours avec Paul.
Oui.
Bonjour Paul. Et
bonjour,
on
Will.
A deux personnes avec des affublés du sweatshirt Fond-Labour Campus et dont on nous a dit que c'était la Dream Team de la journée. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour. Alors, je suis Isabelle Fabas, enseignante en anglais. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être pour ça le Dream.
Dream Team, du coup.
Puisque, donc, également, je suis enseignante en anglais, donc Christine Ray.
D'accord. Donc, Dream Team, ça veut dire
l'équipe de rêve.
Voilà. Alors,
je ne sais pas si les élèves sont convaincus, mais bon.
Oui, alors,
en tout cas, les organisateurs.
C'est Clément Marty qui nous a dit que vous étiez la Dream Team et qu'il fallait absolument qu'on vous ait au plateau, sur le plateau de Radio Le Bigès, parce que c'était, vous aviez beaucoup de choses à dire. En tout cas, vous aviez fait beaucoup de choses pour cette journée et on va en parler. Alors, qui a fait quoi ? Pour aujourd'hui, en tout cas, peut-être on parlera des éditions précédentes. Est-ce que vous êtes des chevilles ouvrières des éditions précédentes ou c'est surtout cette année que vous êtes investi ?
Alors, bon, habituellement, enfin, on s'investit tous les ans avec une classe en particulier, ouais. La filière STAV, Bac Techno.
STAV, ça veut dire ?
Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Mmh. Donc, c'était tout à fait logique que cette classe soit investie dans cette manifestation.
Ouais.
Et donc, nos élèves participent à la journée en élaborant des activités pour le public, notamment pour le jeune public, pour les écoles. Donc, il crée tout un tas d'ateliers en relation, bien sûr, avec la biodiversité sur des thèmes différents. Et ils accueillent du public et animent leur atelier.
Donc, il y a un atelier en particulier qui nous concerne, puisque c'est l'atelier de la section oro. Donc là, on leur propose des jeux en anglais sur le thème de la biodiversité.
Oui, donc déjà que les mots de la biodiversité en français, ça peut être compliqué. Alors, du coup, vous êtes calé, j'imagine, en anglais et en biodiversité.
On fait ce qu'on peut.
Ouais.
Et alors cette année, on a en plus ajouté une difficulté puisqu'on a monté un projet Erasmus+ avec le Portugal. Et donc,
ouais, on a vu des Portugais.
Voilà, on a accueilli donc nos amis portugais du lycée Santo Tirso qui donc sont venus animer aussi des ateliers en anglais. Pas trop de français et du portugais.
D'accord.
Donc voilà, il y avait du trilingue cet après-midi.
Et dans la continuité de ce projet, donc, puisque Isabelle elle, est professeure principale des terminales, donc moi des premières STAV, et donc on va poursuivre ce projet en allant donc, dans le lycée de Santo Tirso à Porto en octobre pour participer à la journée de la biodiversité des portugais.
D'accord.
Donc nous animerons aussi un stand avec nos élèves.
Est-ce que vous allez parler français, anglais, portugais ?
Voilà, donc la langue évidemment de communication sera l'anglais, puisque nos élèves ne parlent pas portugais. Mmh. Donc c'est une manière de les obliger un petit peu à s'exprimer, à échanger en anglais, et de développer ses compétences à l'oral.
D'accord. Et chacun peut y aller de son accent portugais, anglais, et en français, anglais,
voilà,
donc,
tout à fait.
Pas de complexe.
Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Le but, il est là. Et ça fonctionne.
Pardon, Paul, vas-y.
Non, t'inquiète, c'est juste que du coup, j'ai entendu Journée de la biodiversité au Portugal, je ne savais pas que, que ça s'était internationalisé. Est-ce que ça fait longtemps que vous entendez parler de ça ? Ici, c'est la 6e édition.
Alors en fait, pour tout vous dire, au départ, donc, lorsqu'on a monté notre projet Erasmus+, pour avoir le financement européen, donc il fallait monter un projet, Et l'idée, c'était de collaborer donc avec d'autres pays. Le Portugal étant un pays avec lequel on travaillait déjà, notamment le lycée Santo Tirso, on a trouvé logique de monter ce projet avec eux. Donc en octobre, on est allé là-bas. Nos élèves ont travaillé avec les élèves portugais pour les ateliers d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a mis en pratique ce qu'on a travaillé là-bas en octobre, okay, et qu'ils ont travaillé encore par visioconférence pendant l'année. Donc aujourd'hui, on fait des ateliers communs. Et ensuite, si vous voulez, on a initié, et ça va être leur première journée de la biodiversité au Portugal.
Super, voilà. D'accord. Donc ils se sont basés sur ce qui se faisait à Fond-Labour.
Exactement. Wow. Du coup, les enseignantes ont regardé, ont pris des photos, ont filmé de façon à s'inspirer. C'est ça.
Ils s'inspirent des ateliers pour proposer après chez eux des ateliers un petit peu...
Oui, dans la même veine, quoi. Voilà. Bon, ça va, de l'espionnage comme ça, on en redemande, hein.
Non, continuer à déposer. On aurait dû breveter.
Non, mais c'est vrai, parce que journée de la biodiversité, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de journées internationales de plein de choses. Je ne sais même pas s'il existe une journée officielle de la biodiversité.
Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a des journées nature, mais...
Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais genre, il y a la journée du grille-pain, ou la journée... Il y a des journées pour tout et n'importe quoi, mais la biodiversité, je ne sais pas si est-ce que... Il faudrait peut-être faire quelque chose à ce niveau.
Chacun l'a fait sur un jour, ça fait qu'il y en a un peu tous les jours.
Oui, mais ce serait bien. Enfin bon, et du coup, vous savez pas si ça existe dans d'autres pays. Donc France, Portugal, c'est déjà pas mal.
Non, non.
Et l'Angleterre, okay, justement, puisque...
Non, même justement, quand on a déposé, lorsqu'on a imaginé le projet, on a regardé un petit peu si on pouvait trouver des partenaires. Mais non, il n'y avait pas beaucoup d'établissements à l'étranger font des projets sur l'environnement, mais pas un événement comme celui-ci, quoi, sur une journée entière, et surtout animé par des professionnels, des associations, mais et surtout des élèves.
Vous aviez dit que vous étiez prof principal de terminale et première de la même série, du coup.
Oui.
C'est pratique, ça, j'imagine, pour suivre un peu les...
Alors, non, on suit les deux. C'est-à-dire que Madame Rey a les premières cette année, elle aura ses terminales l'année prochaine. Et moi, je reprendrai des premières.
D'accord.
On les suit sur 2 ans, non.
Et du coup, ça permet justement de monter des projets à long terme.
Tout à fait. Voilà. On s'entraide. C'est ça. Et les élèves aussi participent entre les premières et les terminales, partagent des animations auprès des plus petits aussi.
Bon, mais merci. Moi, je n'ai plus de questions.
Juste sur le votre rôle aujourd'hui, concrètement, c'était courir partout
Entre autres.
Oh, c'était de seconder surtout
Madame Hébert, voilà, et Monsieur Marty, ouais.
Ouais. Ouais.
Et après, au niveau des ateliers, de voir si donc les ateliers fonctionnaient bien, si les élèves étaient bien à leur poste, si chacun savait bien ce qu'il devait faire aujourd'hui, accompagner les groupes sur les différents stands, c'était de la logistique.
Ouais. Tout a fonctionné, ça va? Vous êtes
oui.
contente de vos
équipes? Oui, on a eu de bons retours aussi des enseignants du primaire et des collèges. Donc, ouais. Okay. Ça va. Nos élèves aussi sont contents. Et on les remercie.
Eh bien, merci à vous aussi d'être venu au micro, puisqu'apparemment, c'était déjà entre deux courses, c'était pas facile. Et puis voilà, merci.
Merci
beaucoup.
Merci.
Vous êtes bien sûr Radio Albigès dans votre magazine Gardarem La Terre, cette semaine consacrée à la 6e journée de la biodiversité qui a eu lieu le 18 avril 2019 sur le campus Fond-Labour à Albi.
Je crois que ça va être notre dernière entrevue de la journée. Parce que ça commence à se vider aujourd'hui, donc toujours sur la 6e journée de la biodiversité. Plateau à l'extérieur, puisqu'on entend les voitures au fond passer, on entend le vent un petit peu souffler. On est toujours à Fond-Labour, donc sur le campus Fond-Labour à Albi. Et on entend des bruits bizarres d'ailleurs qui sont derrière. Mais
on ne sait pas si c'est la biodiversité, peut-être.
Et on est avec Jonathan d'Assonville.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Will.
Toujours avec Paul aussi, donc co-animateur.
Bonjour Jonathan.
Bonjour Paul.
Jonathan. On a failli te présenter comme Jonathan du Prestil, ça ne veut pas dire grand chose, mais Jonathan du Prestil, c'est ça, du chantier d'insertion, c'est bien ça, c'est comme ça qu'on appelle ça.
Oui, tout à fait. Donc le Prestil, c'est la zone, c'est le lieu dit au séquestre, qui donc abrite le chantier d'insertion du CFPPA du Tarn, qu'on a donc nommé les jardiniers du Prestil.
CFPPA,
centre de formation professionnelle et de promotion agricole du Tarn, qui est un centre constitutif de l'EPL de Fond-Labour.
Et là, par rapport à, géographiquement, on est d'un côté de l'autoroute, de près de la pré-autoroute, de la rocade, toi t'es de l'autre côté, c'est ça?
Voilà, c'est ça, juste de l'autre côté de la voie rapide. Historiquement, il y a les saveurs paysannes sur ce site. Nous, on est juste à côté des saveurs. Voilà. Et donc nous, chantier d'insertion, on a une exploitation maraîchère de 2 hectares 2 qu'on conduit entièrement en bio, en traction animale, et qui nous sert donc de support de réinsertion pour un public éloigné de l'emploi.
La traction animale, c'est un lien avec aujourd'hui la journée de la biodiversité, parce que je crois que la jument qui est là-bas, elle est ici aujourd'hui.
Tout à fait, oui, là on a prêté la jument temporairement. Bah, la jument elle-même est la propriété de l'exploitation de Bellegarde, qui nous la cède pour que donc on puisse travailler les terres, et donc ça nous sert aussi, c'est à la fois notre mascotte, un outil de travail bien sûr, et aussi un support de médiation avec les salariés. Il arrive qu'on reçoive des salariés qui sont un peu en perte de confiance ou pour qui se socialiser, c'est pas évident. Le cheval, c'est un bon intermédiaire pour remettre un peu de lien, et les gens s'y attachent, ça favorise un peu notre travail. Ouais.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Utile.
Utile. Et
Elle est très utile et très agréable aussi. Oui.
Mais elle est surtout un sacré gabarit, hein, parce que moi je l'ai vu tout à l'heure. C'est pas les bon petits chevaux, c'est une jument de trait.
Oui, tout à fait. Et c'est une franc-comtoise. Alors je suis pas très spécialiste du cheval.
Moi non plus, pas du tout, mais j'ai été frappé par la dimension de l'animal. Quoi. En tout cas, c'est.
De toute façon, c'est ce qu'il faut quand on parle de traction animale. Elle doit tirer des charrues.
Tirer un attelage, une charrue, oui, tout à fait. Alors encore une fois, moi je suis pas trop sur la partie technique, donc je vais pas m'avancer beaucoup de peur de dire des bêtises. Mais effectivement, c'est du travail de force. On a une terre qui est très, très argileuse en plus. Donc, tirer une charrue, je pense qu'il vaut mieux quelques muscles.
Justement, de la partie technique, tu peux présenter peut-être ton collègue de travail.
Oui, donc on est deux personnels au chantier d'insertion. Moi, je m'occupe de diriger la structure et de la partie socio-professionnelle. Et on a un encadrant technique qui s'appelle Pierre Hermé, qui est au chantier depuis plus de 4 ans maintenant, et qui, lui, est responsable des cultures et de l'équipe de travail. Donc, c'est lui qui va au quotidien affecter les tâches à chaque salarié, les former sur leur poste de travail, donc leur apprendre les gestes du maraîchage, comment travailler sans se blesser. Et puis après toutes les petites, toute la magie qui fait un maraîcher au quotidien. Et donc c'est lui qui a conçu le plan d'exploitation. Donc on met en œuvre pas mal de techniques de production. On fait du plein champ, sous serre froide. On a de l'irrigation par jarre poreuse. On fait du couvert végétal. On a installé des ruches depuis 2 ans. On va installer des poules prochainement. On est en train de monter un atelier de transformation. Enfin, on essaye vraiment de faire feu de tout bois. Pour que notre support de travail soit le plus diversifié, le plus intéressant possible. Et voilà, toujours dans le but. Alors, ça nous permet de nous inscrire dans pas mal de choses, hein, parce que ça nous permet de faire la démonstration de techniques agricoles. Hein. On reçoit régulièrement des élèves qui viennent voir notre travail ou qui viennent y participer parfois. Ça nous permet aussi de contribuer à la production alimentaire du territoire. On commercialise tous nos produits en circuit court. Il y en a une partie qui part à la cantine de Fond-Labour, donc qui est directement consommée par les élèves sur place. Circuit le plus court possible.
C'est ce qu'on a eu à midi là pour le repas.
Alors oui, à midi, il y avait les poireaux, il y avait les pois chiches qui venaient du chantier. Tout ça,
délicieux.
C'était notre production.
Ouais. Délicieux, merci.
C'est aussi le cuisinier qui est la cuisinière.
Et oui, c'est vrai,
oui,
sans oublier.
Fabrice.
Parce que le croquet comme Fabrice, ça sorti de la terre, c'est pas...
Non, c'est pas...
Y a ça casse les dents, le pois chiche, je crois. Hein.
Ouais. Mais voilà, donc on est vraiment producteur, mais en gardant à l'esprit que ce support de travail, c'est avant tout pour notre cœur de métier qui est la réinsertion. Quoi. Donc le but, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils reprennent confiance, qu'ils reprennent le rythme de travail, les relations avec les autres, tout ce qui permet ensuite de ressortir sur le circuit de l'emploi classique. Quoi.
Moi, j'ai une question peut-être, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça, de la réinsertion par le travail de la terre.
Ouais.
Est-ce qu'il y a, j'oserais pas dire des études, ou en tout cas, quel lien il peut y avoir justement entre le fait de se reconnecter à la terre quand on est dans une phase de vie où on se remet en question peut-être, Alors, c'est quoi le lien avec le travail de la terre?
J'ai pas d'approche théorique de ça. Hein. Je suis venu dans ce secteur un peu par hasard.
Ouais, mais de ce que toi, tu as pu voir peut-être...
Ce que je vois, c'est qu'en tout cas, c'est réel ce dont tu parles là. C'est-à-dire que je vois des gens qui arrivent des fois un peu cassés et qui vraiment, au quotidien, je sais pas comment dire... je pense que c'est assez instinctif hein, pour tout le monde, être dehors, être au grand air, toucher la terre, toucher un jeune plant, voir quelque chose, récolter quelque chose. Enfin, pour tous ceux qui pratiquent un peu du jardinage, c'est quelque chose qui est très apaisant. Et je pense qu'on, bon, on va vite tomber dans le cliché, mais on est dans une société qui est quand même où on est très hors sol finalement, dans des appartements, avec très peu de présence de la nature. Donc le simple fait de venir et de passer ses journées dans un champ, j'invite les auditeurs à le faire hein, s'ils le souhaitent, on n'a pas besoin de faire de la réinsertion pour ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est de nature à nous faire retrouver peut-être un rythme un peu naturel et peut-être enlever un peu du mal-être qu'il peut y avoir parfois chez nos salariés. Ouais.
Ok, bah, je trouve pas que ce soit cliché de le dire, hein. Je trouve que c'est bien de le rappeler quand même, parce que c'est vrai que ici on a pu le voir.
Justement, tu as dit les salariés, donc c'est des, c'est des contrats d'insertion rémunérés.
Tout à fait.
Parce que c'est un travail effectif.
Ce sont des contrats de travail à part entière, ce sont des CDDI, donc c'est des contrats à durée déterminée d'insertion, mais nos salariés sont salariés du CFPPA du Tarn, au même titre que moi ou que les formateurs du centre de formation. Enfin, voilà, c'est des contrats un petit peu spécifiques. Mais c'est vrai que le arriver au chantier, c'est signer un contrat de travail, avoir un salaire, cotiser pour des allocations chômage, des aides au retour à l'emploi à l'issue du contrat. C'est se remettre dans ce circuit-là, ouais. Et c'est important, je trouve, parce que tu disais, on entend beaucoup parler de l'insertion. Alors, c'est l'insertion par l'activité économique, exactement. Alors, il y a par la terre, il y en a dans le bâtiment, il y en a dans la restauration. Mais en ce moment, c'est une idée qui est en vogue, qui a notamment les bénéfices de l'IAE ont été soulevés... Enfin, souligné dans le plan pauvreté, dans les réflexions qu'il y a en ce moment au sujet du travail. Et en fait, c'est une formule qui est à mi-chemin entre l'insertion et le travail réel, en quelque sorte, hein, l'activité économique standard. Et on se sert vraiment de l'un pour faire l'autre. C'est-à-dire qu'on accueille des gens qui ne sont pas tout à fait opérationnels, sur un support de travail qui n'est pas tout à fait standard, mais cet entre-deux-là permet de vraiment... être suffisamment proche du milieu réel pour que les gens reprennent ce rythme et en même temps pouvoir travailler d'une façon un peu différente, pas avoir les mêmes exigences par rapport aux gens, pas être dans un productivisme effréné tout de suite. Voilà, moi j'ai des salariés, sur les deux premiers mois je peux accepter qu'ils soient en retard, qu'ils soient absents de temps en temps et on peut prendre le temps de reconstruire cette relation-là. Ou aujourd'hui, alors je vais un nouveau cliché peut-être, qui n'en est sans doute pas un. Mais voilà, aujourd'hui on est dans un monde qui va si vite et il y a tellement de pression sur le marché de l'emploi, notamment que on n'a plus le temps de connaître les gens avec qui on travaille, de accepter des fois des fragilités ou un peu de qu'il faille prendre du temps pour que les choses soient opérationnelles. Hein. Moi, dernièrement, par exemple, j'ai un salarié qui est parti en mission intérim pour un horticulteur. Au bout d'un jour et demi, il l'a viré parce qu'il n'était pas assez rapide. Je mets au défi n'importe qui de trouver son rythme sur un travail à la chaîne en moins d'un jour et demi. Mais aujourd'hui, on ne prend même plus ce temps-là, quoi. Donc nous, on peut. C'est ce qui est le côté merveilleux de cet outil, hein, du chantier d'insertion et de l'IAE de façon générale. C'est de pouvoir prendre ce temps-là et considérer la personne. J'essaye, moi, d'avoir une approche un peu holistique en plus, c'est-à-dire vraiment de... Je fais à la fois du social et du professionnel, mais je pars du principe que quelqu'un qui est inquiet parce que son fils n'a pas de couverture santé, il ne peut pas aller travailler comme si de rien n'était, et on ne peut pas dire ça ne concerne pas le travail. Voilà, moi, je suis là pour aider à réinsérer des gens. On est obligé de prendre la personne dans son entièreté et vraiment de travailler sur tous les aspects pour qu'elle puisse être suffisamment bien pour être autonome à nouveau, quoi.
Et justement, après ce passage dans votre structure, est-ce que les gens, quand ils se sentent prêts pour ensuite revenir à la vie active, plus dans le marché du travail classique, on va dire, est-ce que du coup, ils ont quand même envie de rester dans ce mode-là? Est-ce que... je vais essayer de trouver la question, hein. J'essaie de formuler les mots en même temps.
Je vais juste rappeler avec qui on est et où est-ce qu'on est. On est toujours à Journée de la Biodiversité à Follabour avec Jonathan Dassonville de chaîne d'insertion de Prestil. Est-ce que tu as trouvé ta question?
Oui, j'ai trouvé. Parce que donc, du coup, une fois qu'ils sont passés par votre structure, est-ce que ça a changé peut-être leur vision du travail? Est-ce qu'ils ont envie de se réengager dans ce qu'ils faisaient avant peut-être? Ou est-ce qu'ils ont envie de continuer vers ces métiers-là? Est-ce que...
Alors oui, c'est très varié. Il y a un point un peu délicat là, c'est qu'effectivement, finalement, on crée une espèce d'univers dont il est un peu compliqué de sortir.
Et oui.
Alors moi, je suis très vigilant par rapport à ça et j'essaie vraiment de leur rappeler souvent que c'est un emploi de transition et que ce qu'on crée au chantier, c'est pas vraiment durable. C'est un travail bien spécifique, mais au bout de 2 ans, quoi qu'il arrive, maximum, sauf certains cas exceptionnels, l'agrément s'arrête. C'est une seule fois dans la vie, donc c'est vraiment un moment pour retravailler tous ces points-là et pouvoir ensuite... Donc voilà, j'essaie toujours d'être vigilant par rapport au fait que c'est pas représentatif du monde du travail réel. Ouais. Après, c'est vrai qu'on génère des vocations. Dans le maraîchage, dans l'agricole, dans les espaces verts. Le fait de travailler dehors, il y a des gens qui vraiment se rendent compte que c'est différent pour eux que tout ce qu'ils ont connu avant.
Et qu'ils peuvent peut-être encaisser plus d'heures que dans un bureau.
Voilà. Et puis surtout qu'ils se sentent mieux juste à être dehors ou juste au contact du végétal, etc. Alors des fois, il y a un petit côté... On attire aussi pas mal d'aspirants maraîchers. Donc là, c'est pareil, je suis obligé d'être vigilant là-dessus parce qu'on n'est pas un lieu de formation, on n'est pas là pour former les gens à la permaculture. Ouais. J'ai rien contre la permaculture, hein, mais vraiment, nous, c'est...
Surtout si vous travaillez en traction animale, j'imagine bien.
Oui, alors, vraiment, on a le profil idéal pour des aspirants, des gens qui veulent se reconvertir, etc. Nous, notre but, c'est de prendre des gens qui sont trop fragiles pour s'en sortir tout seul. Donc on n'est vraiment pas là pour...
Vous n'êtes pas un centre de formation agricole.
Il y a autre chose dans le Tarn pour ça.
Voilà, absolument. Par contre, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que simplement être ouvrier dans les espaces verts, ouvrier agricole, faire un travail qui n'est pas très qualifié, mais au grand air, l'environnement de travail, ça compte beaucoup. Moi, je suis assez persuadé de ça. Je pense qu'il n'y a pas forcément de travail qui en soi soit néfaste. On peut faire le boulot de ses rêves avec des cons et être malheureux. Et on peut faire un travail qui n'a rien de sexy sur le papier, mais si vous le faites avec une équipe que vous aimez bien, dans un lieu qui est joli, vous pouvez être très heureux là-dedans. Donc, voilà,
c'est plutôt bien résumé le marché du travail, je trouve.
Voilà, c'est mon métier.
Alors sur les financements, c'est un organisme public.
Oui.
Il y a de l'autofinancement un petit peu, puisqu'on a dit qu'il y a vous écoulez les produits.
Absolument, ouais.
Comment on peut consommer ces produits à moins de venir tous les jours à la cantine de Fond-Labour et prendre un ticket, je sais pas quoi.
C'est pas la solution la plus simple.
Du coup, est-ce qu'on peut aider financièrement à écouler les produits, les paniers, des choses comme ça? Ça, c'est aux saveurs paysannes, je crois.
Alors effectivement, on a plusieurs points de vente, on a plusieurs modes de commercialisation. Donc il y a auprès des restaurants collectifs de la cantine de Fond-Labour, comme tu disais. On fait un système de panier pour les adhérents, donc là, qui fonctionne un peu comme une AMAP, mais en un peu moins contraignant. Même si j'aime bien les AMAP aussi, mais on est un peu plus flexible. Vous vous inscrivez, si vous prenez 3 paniers dans le mois, à la fin du mois, on vous facture 3 paniers.
Il y a une recette aussi, je crois.
Absolument.
Qui dit comment on peut cuisiner les légumes.
Tout à fait, Pierre, mais une recette à chaque fois, chaque semaine, pour valoriser les produits du panier. Ce sont des produits exclusivement de saison, exclusivement de notre exploitation. C'est vraiment du circuit court et du bio, 100% bio, sauf pour le miel et les pois chiches, mais on précise quand c'est pas le cas. Après, on a un ensemble de points de vente, donc les saveurs paysannes, qui sont un partenaire un peu privilégié de Fond-Labour. Donc on est proche géographiquement, on est proche sur le plan des valeurs, donc on travaille pas mal avec eux, avec Bio Azur, avec tous les magasins fermiers, biologiques du coin, on peut trouver nos produits là-bas. Je pense que peut-être le mieux pour vraiment découvrir notre action et la soutenir, c'est le système des paniers, parce que voilà, ça nous permet de nous connaître mutuellement. On essaie d'organiser un petit événement par an pour remercier nos adhérents et bien expliquer notre action. Et puis là, vous avez vraiment une sélection de saison uniquement des produits du chantier.
Et la saison, ça va de quand à quand ?
Et la saison, donc là, on est sur la période d'interruption, ça va du mois de juin au mois de février.
Okay.
Donc à partir du mois de juin, n'hésitez pas à faire parvenir vos candidatures à Will qui relaiera.
D'accord, appelez Radio Albigès 05 63 60 60 36.
Ah bah, maintenant on va devenir organisme de reconversion professionnelle également.
C'est pour la bonne cause.
Tout à fait.
Sinon, il y a des coordonnées du Prestige, du jardin.
Alors, vous pouvez de toute façon vous adresser au CFPPA du Tarn ou également donc, au chantier d'insertion. On peut venir nous voir sur place, on est ouvert aux visiteurs. Donc, sur la zone du Prestige, juste à côté des saveurs paysannes, chantier d'insertion du CFPPA du Tarn, les jardiniers du Prestige. Et quelle était la question ? Merci. J'ai un Clément Marty qui m'a...
qui fait des signes...
des signes qui détournent l'attention.
Les coordonnées, les coordonnées d'ouverture, donc...
Alors, de 9h à 16h30 le lundi, mardi, jeudi, et de 9h à midi le mercredi et le vendredi. Après, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur place, ou Jonathan Dassanville, on va dire jonathan.dassanville@educagri.fr.
Waouh, c'est dit vite, mais bon...
Ah oui,
on repassera au ralenti.
Faut podcaster l'émission pour avoir le...
Dassanville. Mais on peut aussi passer aux saveurs paysannes, prendre quelques infos.
Absolument, oui, Bernard nous connaît très bien. Ça fait longtemps qu'on travaille avec lui, il relaiera aussi. Enfin voilà, vous devriez réussir à nous trouver sans problème.
Oui, bien super.
On peut venir se balader à vélo autour, là, si on va acheter le pain chez Joseph, par exemple. Joseph Samara qui vend du pain boulanger derrière.
Absolument.
On voit que Will connaît bien le coin.
Mais Will connaît bien.
Ce n'est pas un public reportage. Je n'ai pas de
relation avec
ce monsieur.
Will nous oriente des gens régulièrement aussi. Voilà.
Et puis,
les circuits de la solidarité.
Tous ces légumes aussi.
Absolument.
Cette année, on ne reprendra pas, mais parce qu'on déménage. Voilà, c'est dit.
Et mais vous saurez tout sur la vie des animateurs de Radio Albigès. Merci beaucoup à toi.
Merci à vous.
On va faire ce que nous a dit, ce que nous a mimé, je crois, Clément, mais on ne le dira pas à la radio.
Et bien on va ranger le studio.
Voilà. Merci à tout le monde. Et
bien c'est la fin de cette journée de la biodiversité, 6e édition ici au campus de Fond-la-Bourg.
Sous le soleil, mais pas trop.
Ouais, mais franchement c'était parfait. On remercie beaucoup toutes les personnes qui ont organisé cette journée parce que l'organisation était vraiment millimétrée parfaitement. On les voyait courir partout, à droite, à gauche, et vraiment ils ont réussi à garder le cap. Moi c'est la première fois que je la faisais, j'étais très très impressionné en tout cas. Voilà, je tenais à dire merci, et puis sûrement à l'année prochaine puisqu'on sera toujours là s'il y a besoin de nous pour venir relayer cette événement sur Radio Albigès.
Allez, ciao ciao.
C'est la fin de ce magazine Garde à Rem la Terre sur Radio Albigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues au micro. Merci aux personnes qui ont organisé cette journée et qui ont permis qu'elle se déroule dans des conditions idéales. Si vous souhaitez réécouter le podcast de ces émissions, vous pouvez aller sur le www.radioalbigès.com. Merci à vous et très bonne écoute.